Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine de la journée internationale des droits des femmes. Je dis bien journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, qui tombe donc cette fois-ci un dimanche. Eh bien, d'abord, pour cibler d'où ça vient, cette affaire-là, alors c'est assez vieux, le 28 février 1909, ça ne nous rajeunit pas, il y a une première initiative, une journée nationale de la femme, qui est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique. Alors c'était en 1909, puisque depuis aux États-Unis, on a largement oublié cette question-là. Et c'est la première fois qu'il y a une initiative spécifique sur les droits des femmes. Et puis après, ça va se concrétiser un peu plus, s'élargir en août 1910, à la suite d'une proposition de Clara Zetkin à Copenhague, eh bien, l'Internationale Socialiste des Femmes, donc cette fois-ci une Internationale Socialiste des Femmes, décide de célébrer la première journée internationale des femmes. Hélas, on sera donc en mars 1911. Alors, ça va encore faire des petits, si j'ose dire. En 1921, cette fois-ci, c'est la Russie, l'État, l'Union des Républiques Socialistes d'Union Soviétique, qui est le premier pays, donc l'URSS, en 1921, à officialiser en tant qu'État cette mobilisation avec une journée spécifique et même d'ailleurs un jour férié, ce 8 mars, donc en URSS en 1921. Et ça va s'élargir encore dans les pays de ce qu'on dirait aujourd'hui le bloc socialiste du RSS, c'est essentiellement à l'Est, et ça va s'élargir donc dans de nombreux pays jusqu'en 1960 environ. Et une dernière étape, eh bien, c'est l'action de l'ONU qui va décider en 1977, cette fois-ci, d'en faire une journée en faveur des droits des femmes et de proposer qu'il y ait des actions dans tous les pays. Alors ça vient d'abord du fait que c'était déjà le cas sur une partie de la planète, essentiellement sous l'impulsion des socialistes, et puis, enfin les socialistes au sens international de l'époque, hein, je précise bien, et en 1977, la volonté de l'ONU de reprendre en quelque sorte l'initiative en proposant que ça se fasse partout. Et puis aussi, à cette époque-là, c'est la vague féministe naissante, qu'on peut qualifier comme ça, en tout cas qui prend de plus en plus de poids dans les pays occidentaux, qui va aider à ce que l'ONU la reprenne à son compte, mais à son compte dans le bon sens, évidemment. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans le monde ? Alors, c'est assez divers, c'est même très divers. C'est un jour férié pour les femmes et pour les hommes, en Russie, en Angola, à Cuba et dans d'autres pays. C'est une journée, donc, fériée de par la volonté des partis politiques en place. Dans d'autres pays, c'est pour les femmes seulement, un jour férié, mais c'est déjà ça, en tout cas c'est mieux qu'en France. Et je citerai quelques pays comme Madagascar et la Chine. Et puis aussi des pays qui sont plus mobilisés que la France, avec un jour férié non officiel, c'est-à-dire qu'il y a quand même la volonté de le marquer dans des pays comme le Brésil ou même le Portugal. Et dans des pays qu'on va qualifier d'Europe de l'Ouest, à l'exception du Portugal, aux États-Unis, au Canada, eh bien on peut dire tout simplement qu'il n'y a rien, à part certainement des associations locales qui essayent de défendre au jour le jour, et en particulier le 8 mars, les droits des femmes. On peut dire qu'il n'y a rien, en tout cas de par la volonté politique des dirigeants au pouvoir. Alors, j'en viens à une manipulation, parce qu'il faut le dire, c'est pas seulement pour le 8 mars, c'est aussi pour le 1er mai, où on cherche à dénaturer le mouvement. Ce n'est pas la journée de la femme, quand on l'entend quelquefois, c'est bien la journée internationale pour les droits des femmes. Donc il y a bien une volonté revendicative, pas de célébrer la femme, mais plutôt de se battre pour une véritable égalité dans les entreprises, dans la société, mais aussi pour obtenir des droits spécifiques pour les femmes. Alors en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à part les associations que je dirais engagées, pas grand-chose, si ce n'est qu'à partir du 8 mars 1982, il y a l'initiative du MLF, entre autres, et une ministre déléguée aux droits des femmes, Yvette Roudy, eh bien, le gouvernement socialiste, hein, on est bien en 82, de François Mitterrand, donne le statut officiel à la journée en France, bien qu'aucune loi ni aucun décret ne le mentionne. Donc on est dans le domaine du symbolique. En tout cas, c'était une décision du gouvernement socialiste sous Mitterrand en 82. On est dans le symbole, on n'a pas été plus loin. Disons que c'est une étape. Alors voilà pour un petit peu rapidement dire d'où sort ce 8 mars. J'en viens rapidement à dire où on en est concrètement sur les droits des femmes par rapport à l'entreprise, ce qui est plus mon dada à moi, mais il faut évidemment s'intéresser aux droits des femmes dans la société aussi. Eh bien, globalement, si on raisonne en termes de salaire, les femmes gagnent en moyenne 22% moins que les hommes. Je dis bien 22% et pas 14%, comme on peut le lire quelquefois, 22% à situation comparable, puisque la différence, c'est principalement, mais pas seulement, les temps partiels imposés. Alors évidemment, si on compare que les temps partiels, alors que ce sont 80% des emplois à temps partiel qui sont occupés par les femmes, on ne va pas retrouver la différence de 22%. Mais 22%, quand on regarde pour toute la France, toute situation confondue, c'est bien 22% de différence qui est énorme. Si on regarde maintenant les personnes qui sont sous le seuil de pauvreté tout en ayant un emploi, eh bien là, 80% des personnes, qui sont sous le seuil de pauvreté tout en ayant du boulot, eh bien, ce sont des femmes. Donc c'est bien en raccord avec ce que je disais tout à l'heure sur les temps partiels imposés. Et la retraite, quand on regarde au bilan, puisque finalement la retraite c'est aussi le bilan finalement de l'activité professionnelle, eh bien là on voit qu'avec l'ensemble des phénomènes cumulés, précarité, boulot en pointillé, en temps partiel, etc., non reconnaissance des diplômes, discrimination à poste de travail égal, etc., etc., eh bien la pension de retraite est inférieure de 38% à celle des hommes. C'est énorme. Alors notre président de la République, lors de son premier mandat présidentiel, avait dit plein de choses, il voulait se faire élire ce gars-là, et il avait dit qu'il déclarerait l'égalité homme-femme comme grande cause nationale. C'est d'ailleurs ce qu'il a continué d'annoncer juste après son élection avec la désignation de Marlène Schiappa comme ministre ou secrétaire d'État, je ne me rappelle plus, déléguée à la condition féminine. On est en 2017. Et donc, ils vont sortir tout un tas d'artifices, je dirais, puisqu'au bilan aujourd'hui, donc on n'est plus en 2017, hein, eh bien au bilan, l'écart de salaire s'est réduit un tout petit peu. de 0,5%. Si ma mémoire est bonne, on nous dit que c'est bien, qu'on va dans la bonne direction. Mais la précarité, elle, a augmenté. Donc, en fin de compte, on a neutralisé quelque part ce gain de 0,5% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, selon la façon dont on le calcule, évidemment, puisque j'ai parlé de précarité qui a augmenté. Alors, je me suis fendu de sortir ma calculette, j'ai regardé précisément ce qu'il y avait encore à conquérir en matière d'égalité sur les salaires. Eh bien, à ce rythme-là, au rythme où Macron finalement prend les décisions, puisqu'il y a matière à prendre des décisions autoritaires, ce qu'il ne fait pas dans le domaine, eh bien, le problème sera réglé dans 44 ans, au même rythme où on en est aujourd'hui. Et je citerai un exemple pour terminer, c'est le rôle de la justice, puisqu'apparemment, dans le code pénal et dans le code du travail, c'est une infraction pénale. Alors là, c'est très simple. Quel est le rôle de la justice ? Il n'y a pas, à ma connaissance, si vous en trouvez, je suis preneur, de condamnation pénale pour discrimination sexiste à l'entreprise dans notre pays. Et d'ailleurs, la méthode Schiappa qui avait été inventée il y a quelques années, avec y compris les circulaires qui sont annexées du ministère du Travail en direction des inspecteurs du travail, leur dit d'utiliser cette méthode qui est faite pour noyer un peu le poisson, mais de ne pas mettre de procès-verbaux d'infraction qui se terminerait donc au tribunal. Donc il n'y a pas, dans notre pays, de procès au pénal pour condamner pour discrimination syndicale dans l'entreprise. Vous voyez ce double discours, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Et donc, pour terminer, il y a du boulot. Alors, il y a du boulot partout sur la planète. On pense bien sûr à l'Iran. Il faudrait penser aussi aux Émirats arabes, où c'est pas beaucoup mieux. Mais il y a aussi du boulot en France. Évidemment, pas de même niveau, mais il y a du boulot en France pour reconnaître finalement les droits des hommes et des femmes, au moins à titre d'égalité dans les entreprises. Et comme nous le savons tous, hors de l'entreprise, il y a également des choses à faire. J'en ai terminé cette semaine, donc ce 8 mars, un dimanche. Il y a des initiatives, il y en a une à Saint-Antonin-Nobleval pendant le marché le dimanche matin, il y en a d'autres en France. Et je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
C'est le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.